Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h à suivre Eva Rock pour son zapping du lendemain avec un tournoi de baby-foot très émouvant et Bertrand Chamerois pour son écran de veille qui va vous faire voyager et sans doute vous énerver aussi. Notre invité, le chanteur et nouveau coach de The Voice, Vianney, pour son troisième album N'attendons pas. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu. Et puis dans les indispensables, une nouvelle façon d'écouter les humoristes grâce au podcast, sélection par Louise Bernard, et une console de jeux vidéo qui va plaire aux nostalgiques, ce sera évidemment avec Clément Le Saffre. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Bonjour Bertrand Chamerois.
Bonjour.
Vous avez passé un bon week-end?
Excellent.
Tous les deux. L'écran de veille, Bertrand, je commence par vous. Vous avez regardé quoi hier à la télé?
J'ai regardé le magazine du dimanche de TF1, 7 à 8, qui, je suis sûr, vous provoque le même effet qu'à moi. Vous êtes dans votre salon, tranquille, ça fait un moment que vous n'avez pas regardé l'heure, et d'un coup, paf, cet air qui vous ramène à la réalité et vous colle une bonne boule au ventre en vous hurlant « Allez hop, la bamboche, c'est terminé !» On commençait à peine à vraiment se détendre qu'on se retrouve déjà dans cette zone de flottement bâtarde. On n'est plus tout à fait dimanche, on n'est pas encore totalement lundi. On pense à tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire et tout ce qui nous attend le lendemain. Le générique de 7 à 8, c'est l'équivalent des cartables en rayon de supermarché le 10 août. Ça vous file une de ces angoisses. Et hier, le blues du dimanche soir avait un goût particulièrement amer puisque les équipes de 7 à 8 suivaient un couple un poil énervant.
Sous le soleil des Canaries, paradis des surfeurs, 25 degrés au mois de novembre. Le couple est bien loin des affres du confinement en France.
Couple de Français confinés aux Canaries, pile ce qu'il nous faut quand dehors il pleut et que demain 8h on a réunion Zoom pour un bilan prévisionnel. Je sens qu'ils vont vous plaire ces deux-là. Mais dites-moi, pourquoi les Canaries plutôt que Paris? C'est étrange.
Aux Canaries, pas de couvre-feu, pas de reconfinement. Les bars sont ouverts jusqu'à minuit. Contrairement au reste de l'Espagne, la deuxième vague du Covid n'a pas déferlé sur l'archipel.
Si ce reportage était une carte postale, elle représenterait un coucher de soleil et un bon gros doigt d'honneur accompagné de la phrase « Ça va, pas trop dur pour vous en France ?» sur une typo rigolote. Alors, je pensais que ce sujet allait faire remonter toute mon aigreur. Eh bien, complètement. Oui, complètement. À plusieurs reprises, j'ai brisé des crayons en deux et proféré des insultes.
On porte quoi? Un maillot de bain, on a deux t-shirts, il fait bon, il y a un peu de vent... Pas besoin de sèche-linge. Ah ouais.
J'ai rarement passé un mois de novembre en Europe aussi vêtu légèrement.
This is not a méthode, this is a provocation. Non mais je vous rassure, bien qu'étant aux Canaries, le couple télétravaille dans l'immobilier et ça leur fait des journées bien chargées.
Le couple passe au maximum 3 heures au téléphone par jour avec la France. Le reste du temps, farniente, visite, plage...
Super bonne.
Ouais. Et baignade dans la piscine.
Mais c'est fini, oui! À ce moment-là du reportage, j'en étais déjà à 7 crayons brisés. Si vous vous demandez pourquoi ils ne bossent que 3 heures par jour, c'est parce qu'ils sont malins. Ils ont trouvé quelqu'un pour les aider à distance et pas n'importe qui.
En leur absence, c'est une de leurs locataires de bonne composition qui les dépanne.
Du coup, vous la payez pour ce qu'elle fait, là?
Ah bah non.
Ah bah non.
C'est génial.
Payer quelqu'un qui fait le boulot à notre place et plus quoi encore. Et attention, voici la réponse à la question. Pourquoi vous ne payez pas votre locataire pour le travail qu'elle fait?
C'est du bon sens.
Eh oui.
Ah bah oui.
C'est du bon sens. Elle est locataire, on lui rend déjà service en lui fournissant un appart qu'elle paye, donc elle va pas on va pas en plus la rémunérer pour son boulot. Un couple plein de bon sens, donc, et philosophe.
Qu'on soit ici ou en France, on n'y changera rien. En attendant... On profite un peu.
Bilan de ce reportage, 16 crayons brisés en deux et la fin d'un mystère. Je sais enfin qu'il existe pire qu'un dimanche soir. Un dimanche soir de novembre en 2020. À regarder un couple tout sourire parler du confinement en speedo dans une piscine aux Canaries.
Merci Bertrand.
C'est vrai que c'est agaçant.
Calme-nous, mais c'est hyper agaçant. Et le bon sens, c'est terrible.
Petit bruit de l'eau à la berque.
Eva, oui. Un temps d'avance avec vous, vous allez nous dire quels sont les programmes du jour à ne pas manquer, du soir. Le thème du jour, Eva.
C'est la transmission. Alors, transmettre son savoir, son expérience, son humanité. Sur France.tv, 10e saison de la série Vestiaire. 52 épisodes de 3 minutes dans les vestiaires d'une piscine où on va retrouver nos héros, Romy, Orson, Caro, Ramirez, Roland. Ils sont tous sportifs, tous handicapés, avec un autre point commun qui est un immense sens de l'autodérision. On retrouve d'ailleurs Romy sur son fauteuil roulant, enfin à côté.
Merde, j'ai crevé. Hé, fauteuil, tu commences sacrément à me gonfler. Si j'avais pris le vaccin contre la polio, j'aurais pas besoin de ce tacos.
Et alors, dans cet épisode intitulé « Grand fauteuil malade », Romy, alias Abdeliada, se lance alors dans un slam façon grand corps malade.
Par la force des choses, on suit le même chemin. Notre force, c'est de le faire la roue dans la main. C'est pas de ta faute, si pour moi, il y a des trucs pas accessibles. Les hommes n'ont pas compris que cette société n'est pas valide.
Un hymne à l'amour à son fauteuil roulant. Chaque actrice et acteur de la série partage sa vision du monde, ses galères aussi, hein, et nous transmettent un bout de leur humanité. J'aime beaucoup cette série pour la bienveillance qu'elle dégage.
Et j'aime beaucoup cette autodérision, la roue dans la main.
Exactement, et vous savez, c'est tout le slam qui est construit comme ça. De la bienveillance et de la transmission, il en sera encore question sur France 3 avec un documentaire intitulé Papy Foot. À Paris, c'est l'association Tatane qui organise régulièrement des tournois de baby foot dans des EHPAD ou des résidences pour personnes âgées. Les équipes sont composées de seniors, comme on dit politiquement correct, et d'enfants de centres aérés. Et pour Madame Barry, cette activité est un bonheur.
C'est un jeu qui est technique, quand même qui donne à réfléchir un peu comment il faut faire le mouvement.
Il est où Mbappé là? Il est où
Mbappé.
C'est vous Mbappé?
Oui, c'est pas, mais on va voir.
Les personnes âgées, avancées en âge, ils ne peuvent pas faire certains sports maintenant, mais baby foot, ils peuvent.
Et franchement, j'ai eu une larme d'émotion en découvrant ces tournois intergénérationnels, la façon dont ces enfants redonnent le sourire à des adultes souvent très seuls. Il faut vraiment voir Papy Foot. Et puis, lui avait aussi choisi de transmettre, mais en écrivant. Daniel Cordier, résistant historien marchand d'art, décédé vendredi à l'âge de 100 ans, se méfiait des témoignages oraux. France 5 a choisi de déprogrammer le film Tous les matins du monde pour lui rendre hommage en diffusant Alias Caracalla au cœur de la résistance, un téléfilm qui est tiré de son autobiographie. Nous sommes en 1940 et voilà le jeune homme qui arrive à Londres.
Monsieur le consul, à qui s'adresser pour continuer à se battre ?
Mais monsieur, la guerre est terminée. La France a signé l'armistice.
Nous avons quitté la France pour continuer la lutte contre les Boches. Il est hors de question que nous rentrions.
Dans ce cas, sachez, jeune homme, que vous serez considéré comme déserteur et jugé en tant que tel.
Vous dites cela ? Mais je suis sûr que nous ne sommes pas les seuls patriotes à Londres. Maurras sûrement est déjà là.
Maurras. Mais Maurras est en France, comme tous les bons Français. Et il soutient la politique du maréchal Pétain.
Fiction très réussie sur le parcours étonnant d'un homme antisémite royaliste qui a rejoint De Gaulle et qui est devenu un compagnon de Jean Moulin avec qui il fondera le Conseil National de la Résistance. Alors je récapitule, Transmettre son humanité, c'est dans la série Vestiaire sur France.tv, Transmettre son expérience, c'est dans le documentaire Papy Foot sur France 3 à 23h05 et Transmettre son histoire, c'est sur France 5 à 20h50 avec le téléfilm en deux parties alias Caracalla.
Et on peut regarder tout ça en replay par exemple depuis
exactement,
les Canaries.
Exactement.
Mais oui, merci Eva Roque. Merci Bertrand Chameroy. À demain.
À demain.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Vianney.
Bonjour.
Vous êtes venu avec votre guitare, vous êtes chanteur.
Ouais, je sais pas, je la trimballe toujours au cas où.
Chanteur phénomène, on vous avait connu, vous étonniez, mais t'es pas là, t'es où? On aurait pu croire à un feu de paille, pas du tout. C'était sur le premier album qui s'est vendu à 200 000 exemplaires, excusez du peu. Et le deuxième album s'est vendu à 850 000 exemplaires. Et là, vous revenez pour le troisième, il s'appelle N'attendons pas. C'est chez Tôt ou Tard, je vais citer le label parce que le label est courageux. Énorme tournée à annoncer. On le dira tout à l'heure. Est-ce que c'est par ironie que l'album s'appelle N'attendons pas, alors que vous avez attendu 4 ans ?
Il y a quelque chose d'ironique, ça c'est clair. Il y a surtout quelque chose d'ironique au fait de sortir cet album le jour du reconfinement. C'était plutôt ça nous, qui nous a frappés et qui fait qu'on se souviendra toujours de cette aventure de sortie d'album.
Ouais.
C'est que moi j'essaie de là-dedans de chanter l'audace, voilà, le fait de ne pas avoir peur, d'embrasser nos projets et nos passions. Et puis il y a cette situation qui est assez dramatique pour le monde des chanteurs.
Il est sorti fin octobre et vous avez dit sortir un album dans ces conditions est une cata, mais on y va, pourquoi c'est une cata?
Ben, je dis c'est une cata techniquement, commercialement.
Commercialement?
Oui, quand tout ferme, je sais pas si c'est...
Alors, je vous interromps avec un compliment, c'est assez rare pour être signalé. Voir quelqu'un qui sort un album à une date alors qu'il pourrait la décaler tout en sachant que cette date va peut-être faire qu'il va en vendre moins... C'est donné à très peu.
Oui, mais moi, j'aurais vraiment été très embêté philosophiquement. Parce que vraiment, mon album, j'essaye de chanter ça. Moi, j'essaye de dire de ne pas avoir peur. Voilà, vraiment d'y aller. De ne pas attendre pour vivre et pour faire ce qu'on aime. Donc, j'avais pas décalé mon album. Je me serais vraiment trahi, quoi.
Comment vous avez travaillé pour cet album? On a entendu Beau Papa qui raconte des choses très personnelles. On a compris que vous étiez le beau-père d'une petite fille, que vous n'avez pas faite avec la maman. Vous avez travaillé comment?
Pour faire cette chanson ?
Non, pour travailler tout l'album. C'est pas dans un studio classique d'abord.
C'est dans mon studio, c'est-à-dire mon petit home studio, qui est mon ancienne coloc. En fait, c'était une petite maison, et je l'ai gardée et j'en ai fait mon studio. Donc j'enregistre tout là-bas.
Ouais.
Donc on a tout fait là-bas. Hein. Je peux enregistrer même les cordes, les pianos, voilà, les grattes, les voix. J'ai tout fait comme un petit artisan. J'étais enfermé et jour et nuit, j'ai beaucoup bossé pendant quelques mois.
C'est vous qui jouez de tous les instruments ou quasiment ?
Presque. Après, évidemment, les cordes, je confie toujours ça à des vrais musiciens. Et puis, il y a quelques pianos, je ne les ai pas tous joués. J'ai dû jouer un tiers des pianos et puis partager avec deux autres copains les restes.
L'album s'ouvre sur la chanson Merci pour ça, chanson qui évoque un ami SDF. Vous continuez, comme lorsque vous étiez étudiant, à vous occuper des sans-abri, à faire des maraudes en hiver ?
Oui, je continue. Là, ils s'organisent différemment cette année avec tout ce qu'on traverse, mais ça continue en fait. Les bénévoles ne s'arrêtent pas. Ils ont une telle détermination et il y a un tel besoin en fait de ces gens-là.
J'ai mal posé ma question. Vous faites toujours partie des bénévoles ?
Oui, bien sûr, bien sûr.
Alors, il y a des titres ou des propos qu'on entend guère dans la chanson française. Par exemple, une chanson, ça m'a surpris, qui démarre sur un râteau. La chanson, elle s'appelle La fille du Sud. On écoute le début.
On m'a dit que c'était là que tu venais souvent. J'ai pensé n'y va pas et je suis venu pourtant. J'avais plus l'habitude qu'on me remballe. Mais comme t'étais du Sud, j'ai pris un Mistral. Moi je voulais n'importe quoi tant que c'était avec toi. Même devenir ami, même conduire dans Paris. Faut pas faire des études pour être au courant que comme t'étais du Sud, tu prenais ton temps. La fille du Sud.
Au passage, c'est un peu un hommage à Let It Be des Beatles.
Et puis il y a Delerme aussi qui utilise beaucoup ce schéma-là de tam, 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 tam. Bon, moi, je l'ai rythmé différemment, du coup. Tam, 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 tam. Il y a Dylan qui utilisait ça, c'est un gimmick de la chanson. Ouais.
Et alors, je me suis dit, on attend évidemment cette chanson à la fin des concerts, quand vous allez tourner à Montpellier, à Marseille, à Nice, à Toulon. Ça sent la fin avec les portables et toutes les filles qui chantent.
Ah, dans le Sud, ouais. Peut-être que je terminerai avec ça, c'est vrai. Ouais.
Ah bah, si vous ne le faites pas, vous auriez tort.
Ouais.
2 ans que vous n'êtes pas monté sur scène, ça vous manque ? Ou pas plus que ça ? Vous avez trop donné.
Bon, non, j'ai hâte d'y retourner. Donc oui, ça me manque dans le sens où je suis très pressé, mais j'ai pas le besoin qu'ont d'autres gens, et je trouve ça très beau d'ailleurs, d'autres copains chanteurs qui ont vraiment besoin d'être sur scène régulièrement, qui peuvent pas faire autrement. Je reconnais que j'ai pas le besoin, mais j'ai une vraie envie, j'ai envie d'y retourner, quoi.
Et nous, on a une vraie envie de retrouver Hélène Manarino. C'est le portrait inattendu. Vous restez avec nous, Vianney, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
N'attendons pas, c'est le titre du 3e album de Vianney, album qui est sorti fin octobre et qui est déjà en tête des ventes. Bravo, et moi non plus, j'attends pas. Vianney, je vous présente Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous, bonjour Vianney.
Bonjour Hélène.
Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors, Néné, puis petit, c'était Néné le charcutier. Et Georges Kilian, par rapport à vos cheveux reflets Auburn, petit, qui est une bière, je le rappelle, votre pudeur part petit à petit avec le temps. Comme vous dites si bien, il y a chez vous une culture de la discrétion. Néanmoins, ce matin, je me permets de ne pas attendre pour vous replonger dans vos souvenirs. Ne me dites pas « merci », votre façon de dire « merci ». Alors, Vianney, enfant rêveur, espiègle, essayons de composer ce matin un nouveau titre sur votre vie en préambule. Peut-être la phrase de votre doudou, Nono le robot, qui répétait sans cesse « on a du boulot ».
Comment vous savez ça ? En vrai, ça, je ne l'ai jamais dit, jamais.
Ouais, voilà.
Avec Hélène, on entend toujours des choses que les gens n'ont jamais dites.
Incroyable.
La mélodie pourrait s'inspirer de la première chanson que l'on vous a chantée.
Tourne, tourne, petit moulin, frappe, frappe, petite main.
Tourne, tourne, petit moulin. Il y avait aussi l'araignée Dipsy, en alternance avec la lecture de votre livre préféré, Le loup et le chien, des fables de La Fontaine. Vianney, les paroles d'Henri Dès vous ont toujours fait beaucoup rire, mais aussi celles de Jean René.
C'était une princesse qui se grattait les fesses, qui se grattait les fesses.
C'est quoi ce truc ?
Oui,
la princesse qui se grattait les fesses,
Vianney, c'est Jean René, quoi. Mais je m'en souviens grave, c'est ça qui est.
En tout cas, votre registre a évolué avec l'âge. Rien d'étonnant que c'est cette chanson que vous connaissiez par cœur à l'âge de 8 ans.
J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tout
On va dire qui c'est quand même pour qui ne connaît pas.
Axel Red, Sensualité. Alors Vianney, des influences pour composer le rythme, vous en aviez, des références qui vous inspirent, il y en avait plein, et votre inspiration se voyait sur vos dessins, notamment un fait de vos mains représentant la mascotte de Podium avec l'inscription « Waouh, je lis Podium, il était accroché dans votre chambre ». Et oui.
Il se tient la tête, il se dit mais jusqu'où ça va aller ?
Elle a parlé à mes parents, c'est
non, elle est très très forte.
D'ailleurs, petit, vous rêviez de dessiner et peindre comme, je cite, « grand-mère de la mer ». Lorsque vous étiez à Londres, vous avez suivi des cours de dessin en parallèle avec vos études et votre colocation était tapissée de fusains grand format. Revenons à votre enfance. Le premier refrain que vous aimiez entendre était celui de sa cartoon. L'émission Les Dessins Animés n'était autorisée que le dimanche soir, une sorte de petit cadeau au grand désespoir de votre maman. Vous ne reculiez surtout devant rien, vous aimiez que la cadence s'accélère, mettre du piment dans vos yeux par exemple, pour voir ce que ça faisait. Puis...
Du coup, il est à moitié aveugle maintenant.
Vous êtes
fou. Non, mais alors ça, vraiment, c'est improbable.
Puis, à l'âge de 5 ans, vous êtes tombé du bateau dans le port avec la tête dans l'eau pendant quelques secondes et vous étiez impatient de raconter à vos frères tout ce que vous avez pu voir. Crevettes, crabes, étoiles de mer, anémones. Vous aviez déjà tout compris, ce goût du partage. Alors, Vianney, ce nouveau titre de votre vie déborde de joie quand vous imitez, par exemple, cet artiste. Vos limitations. Ah bah oui.
C'est Michel Jonas. Oui, j'aime bien Michel Jonas.
Imitation donc de Michel Jonas. Avant cela, vos petites blagues comme toutes ces grimaces que vous avez pu faire dans le dos de votre père pour amuser la famille. La famille fil conducteur de cette nouvelle mélodie, vos grands-parents et toutes ces randonnées dans le Vercors. Le nain jaune, ce jeu que vous faisiez toujours entre vous. Et ce matin, c'est aussi la mélodie d'un passionné par le design, les formes de certaines voitures, les cyclosports. Vous avez d'ailleurs été adhérent de l'association Cyclosport Français. Et oui.
Pourquoi vous êtes mordu?
Ok, t'as parlé à mon père, c'est sûr.
C'est sûr.
Aujourd'hui, à part la musique, on peut citer la couture, le tennis, FIFA sur PS4, la série La Flamme, chanter, danser, vous ambiancer sur Aya Nakamura ou encore Taylor Swift. Vianney, des sensations fortes dans ce titre, il n'en manque pas. D'abord, les sensations inoubliables, comme lorsque vous avez gagné le championnat de France universitaire de rugby avec l'équipe dont vous étiez capitaine. Mais surtout, ce qui vous plaît, c'est la grande aventure. Pour vos 18 ans, on vous offre un stage de chute libre à Vannes avec un saut à 4000 mètres quand même. Ouais. Vous avez également marché 235 km à travers champs, juste avec une boussole entre le Croisic et le Mont Saint-Michel. Alors, fan d'expérience, parfois, elles sont un peu ratées, comme sur le tournage de The Voice où vous avez mis en panne les 4 fauteuils des coachs.
Oui. C'est vrai ça? Ouais. Ça fera une question média dans un petit moment. Racontez pas, Hélène.
Ouais,
Hélène.
C'est clair.
Ou sur le tournage du clip Beau Papa qui se passait sur un petit bateau et tout le monde avait le mal de mer. Vianney, loyal, fidèle, généreux, la présence de vos proches vous galvanise. Composer, écrire, réaliser en permanence pour vous, oui, mais surtout pour les autres. Infatigable, réfléchissant à comment raconter les choses, vous aimez écrire sur la vie. Rien de plus normal pour un artiste qui passe son temps à marquer celle des autres.
Merci beaucoup, Hélène.
Voilà.
Vianney.
Incroyable,
réaction.
Hélène. Ah non, mais vous êtes incroyable. Je sais pas, vous êtes une espionne, quoi.
Ouais.
Mais c'est sûr que vous avez parlé à ma famille. Ah, enfin, c'est pas possible autrement.
Parce
qu'il y a vraiment des trucs. Il y a vraiment des trucs, ouais, que évidemment je n'ai jamais évoqué, quoi.
Et du coup, Vianney retire sa veste, il se met en chemisette
pour
la suite de l'émission.
Ça y est, je suis à l'aise là.
Voilà.
Grâce à Hélène Malarino.
Hélène, avec j'ai qu'un mot à vous dire, vraiment un grand, grand merci.
Ouais.
Dans un instant,
merci
notre premier indispensable avec Louise Bernard qui va nous faire découvrir une sélection de 3 podcasts imaginés et animés avec talent par des humoristes. À demain, Hélène. Vianney, reste avec nous.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
En compagnie de Vianney qui publie son 3e album qui est déjà publié, il s'appelle N'attendons pas, avec 11 chansons. Entre la sortie de l'album précédent et celui-ci, vous avez écrit des chansons pour d'autres. Et si je ne me trompe, N'attendons pas et J'ai essayé, c'était pour Johnny Hallyday.
Ouais, exactement. Ouais. Et puis, j'allais dire, la vie fait bien les choses. C'est triste de dire ça parce que du coup, il est parti et j'ai gardé ses chansons sur les bras.
Voilà.
Et je les aimais beaucoup, donc je les ai chantées dans mon album.
Et quand on écoute N'attendons pas, je dis ça aux gens qui auront acheté l'album, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer Johnny en train de le faire à votre place.
Ouais.
Ah, si on l'entend.
Oui. Bon, lui, il aurait fait un peu plus comme ça.
Allez-y, comme
non, mais c'est sûr que quand je fais, j'imagine avec sa voix.
Ouais.
Mais non, mais je peux pas le faire. Je peux pas l'imiter. Ce serait pas très respectueux de Johnny. Mais oui, moi, j'imaginais bien avec sa voix, évidemment.
Il y a également Mode, une chanson sur la vacuité et sur la dictature de la mode. Pourquoi cette chanson ?
Bon, parce que je dis ça, c'est plutôt. Non, mais c'est qu'on est tous. Je pense qu'on est plutôt libre si on se tient éloigné des tendances. Si on n'embrasse pas toutes les tendances qu'on nous propose, c'est plutôt ça ce que j'essaie de chanter. Mais que nécessairement, il y en a quelques-unes auxquelles on adhère. Et on est tous sujets aux modes et aux tendances.
Julien, moi, ce qui me frappe chez vous en préparant cet entretien, j'ai découvert que vos études, vous étiez au Collège Notre-Dame des Oiseaux, établissement en vieille France, il en est, dans le 16e de Paris. Vous avez été interne au lycée militaire de Saint-Cyr, ensuite vous avez fait une école de commerce, c'est pas fini. Et vous avez fait S-Mode, école prestigieuse pour devenir styliste, où vous dites « j'ai passé des nuits blanches à coudre ».
Ouais, voilà. C'est une école de couture, en fait. Et j'ai adoré ça. Moi, j'aimais bien fabriquer des vêtements.
Mais la chanson n'a rien à voir avec ça du tout.
Ah non.
Où est-ce que vous pensiez à la mode en tant que telle ? La mode, la hype.
Non. Vous feriez quoi, et puis si d'ailleurs, quand j'ai fait une école de mode, je connaissais rien à la mode. Moi, ce qui me plaisait, c'était l'artisanat du vêtement. C'était les matières, le jeu des matières, des couleurs, des silhouettes. Voilà, c'était davantage ça qui a fait que je me suis rendu dans cette école-là.
Vous feriez quoi si vous suiviez la mode ? Vous feriez quoi comme musique ?
Là aujourd'hui je ferai du rap, mais si j'avais fait de la musique que je fais aujourd'hui, si je l'avais faite il y a 20 ans, j'aurais été pile dans la tendance, je pense.
Ouais.
Non, aujourd'hui ouais, je ferai du rap, parce que c'est le nouveau mainstream, quoi. Voilà.
Et la tendance en ce moment, c'est les podcasts. Vous avez un podcast ou pas ?
Non.
Moi non plus. Si, ça. Culture Média est en podcast. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous avez vu cet enchaînement, les humoristes ne sont plus sur scène, merci beaucoup. Mais vous pouvez les avoir, les humoristes, dans les oreilles. Vous avez préparé une sélection de podcasts, j'ignorais que ça existait, des podcasts animés par des humoristes.
Oui, en revanche, je vous avertis tout de suite, un podcast d'humoriste, ça n'est pas un one-man show audio où van sur van s'enchaîne. Ça n'est donc pas la garantie de rire tout du long. Mais, ces artistes possèdent des qualités indéniables, de l'esprit, un sens de la répartie, une imagination souvent débordante. Donc tout ça justifie d'écouter ces trois podcasts que je vous ai préparés, qui partagent le même concept pourtant très basique, une conversation entre l'humoriste et un ou plusieurs invités.
Alors qu'est-ce qui les différencie, Louise ?
Le ton, l'ambiance du podcast et évidemment la personnalité de l'humoriste qui l'incarne.
Allez, le trio, premier podcast que vous nous conseillez.
Un bon moment, c'est porté par Kian Kojandi et son co-auteur Navo. On leur doit notamment la série Bref. Une fois par semaine, ils invitent des gens qu'ils aiment. C'est leur formule à discuter autour d'une table. Alors la grande réussite du podcast, c'est d'avoir l'impression de partager une soirée entre amis avec eux, sans que ce soit excluant. Leurs invités sont souvent humoristes, donc ça donne lieu à des échanges très intéressant sur leur métier. Par exemple, vous pouvez entendre Florence Foresti confier être moins effrayée de jouer à Bercy, donc à Corotel Arena, donc c'est 20 000 places, que dans une toute petite salle de café-théâtre. Ça permet aussi d'aborder certains sujets avec plus de légèreté que face à un journaliste. L'humoriste Baptiste Le Caplain, par exemple, a été accusé il y a quelques années d'être derrière le compte CopyComic. Vous savez, c'est ce youtubeur un peu mystérieux qui dénonce le plagiat dans le monde du stand-up. Alors, il met en ligne des vidéos qui démontrent que des sketchs parfois très connus sont copiés sur d'autres humoristes. Baptiste Le Caplain a nié être CopyComic à l'époque et à nouveau dans le podcast.
Quand le truc est sorti, Kian m'a appelé, il m'a fait « C'est tellement pas toi. »
Il a un foutu de
monter. Je t'ai déjà vu devant un logiciel de montage, il m'a dit « Et les trois quarts des comics qui sont cités, tu les connais pas. » Non mais c'est vrai, il y en a plein que je connais pas. Non,
mais j'ai jamais essayé de faire de très bien ton identité, comme Clark Kent, tu vois.
Mais comment tu veux... Non mais faire ce genre de vidéo montage, ça prend de la place sur un ordinateur.
Quand même. Ça prend du temps, ça prend du temps, beaucoup de temps.
Ça prend du temps, mais je le fais quand, moi ? Je le fais quand ? Je fais mon footing, j'écris mes spectacles.
Mais c'est peut-être une couverture.
Je rate des castings.
Non, on voit pas où tu cours. Peut-être tu pars. Dans la forêt, t'as un bureau.
Non, il a une fourgonnette.
Voilà, un tout petit reproche. Quand tout le monde parle en même temps sur certains épisodes, ça n'est pas toujours agréable à l'écoute, mais ça reste assez rare. Ça s'appelle Un bon moment par Kian Kojandi et Navo.
Le deuxième podcast, Louise.
Alors, un podcast très frais qui parle amour, sexualité, création artistique, des questionnements plus philosophiques qu'humoristiques portés par la comédienne Rosa Burstein. Elle a fait le choix de n'inviter que des hommes en tête à tête. Pourquoi ? Eh bien, tout est dans le titre du podcast pour comprendre comment elle les choisit. Les mecs que je veux ken, traduction de ken, c'est le verlan de l'élégant mot niqué. Donc Rosa Burstein a une définition un peu plus précise.
J'invite des hommes que je veux ken, voilà. Et par ken, j'entends posséder, des hommes que j'admire et dont je veux toucher le talent. Des hommes qui m'attirent physiquement, intellectuellement, des hommes avec qui je pourrais me voir en couple, pourquoi pas. Des hommes avec qui je voudrais des enfants ou pas.
Alors, les questions spontanées et très intimes de Rosa troublent parfois ses invités, des humoristes, acteurs, metteurs en scène, écrivains. Vous pouvez par exemple écouter des entretiens avec Raphaël Antoven ou Alexis Michalik. Et plus improbable pour Les mecs que je veux ken, je rappelle le titre, Rosa a un jour invité son père.
Oh, dis donc. Le dernier podcast.
À bientôt de te revoir. Alors, peut-être le plus
attends,
déjanté.
Celui-là, on a envie
trois.
De l'entendre un jour. Celui-là, on a envie de l'entendre
oui,
un jour.
Il faut l'écouter. Ouais. C'est disponible sur toutes les plateformes. Ouais. À bientôt de te revoir. Donc, c'est peut-être le plus déjanté des trois. Sophie-Marie Laroui fait la différence avec son ton extrêmement détendu. Elle tutoie, elle s'égare dans des discussions improbables avec ses invités. On en vient donc à se demander pourquoi les serviettes sont-elles carrées et non pas rondes. Y a-t-il des accents en langue des signes? Xavier Dupont de Ligonnès est-il parti faire le djihad avant tout le monde?
C'est drôle.
Improbable et déjanté, je vous l'ai dit. Ses invités sont le plus souvent des artistes. L'animatrice Valérie Damidot s'est aussi prêtée au jeu. Et un homme politique, Benoît Hamon, petit aperçu de la rencontre.
D'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que tu vas souvent à la piscine?
L'été. Je suis toujours dans la même piscine l'été. Oui.
Ah ouais? Alors, à Paris ou ailleurs?
Non, dans le sud.
Ah ouais?
Tout piscine municipale, je veux dire, oui, autant une piscine collective, quoi.
Oui, oui. Oui, tu vas pas à Brigançon.
C'est raté, en tout cas.
Non, ouais.
J'aurais bien aimé, hein.
Voilà, podcast enregistré en public à l'époque, c'est très chaleureux à écouter. C'est produit par Binge Audio. Je rappelle son nom, à bientôt de te revoir.
Merci beaucoup Louise Bernard. Vianney, vous êtes client de ce genre de choses?
Ouais, grave, j'adore. J'adore, ouais. J'étais en train de me dire qu'il faut que j'en fasse un avec mes potes, juste avec des copains, ce serait marrant.
Mais sinon, je pense que Marie-Sophie Laroui qui fait le dernier podcast, je pense qu'elle aimerait bien vous inviter.
Tu penses?
Non, alors ça c'était le deuxième podcast, je ne me serais pas permise. Mais en revanche, le troisième, elle parle parfois de vous parce qu'elle vous aime beaucoup. Donc je pense qu'un jour elle vous invitera.
Ah bah, ce sera avec plaisir, parce que ça a l'air trop chouette.
À bientôt de te revoir. Merci beaucoup Louise Bernard.
Après, Louise.
Vianney, reste avec nous. Vous êtes un gamer?
Ouais.
On va en parler avec Clément Le Saffre, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
On n'attend pas, et je peux vous dire, Vianney n'a aucune envie d'attendre la séquence qui suit. Bonjour Clément Le Saffre.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
On va parler de jeux vidéo avec vous. Vianney dit, ah mais c'est énorme, il a vu cette petite console dont vous allez nous parler.
Oui, alors si elle est petite, c'est que c'est ni la PS5, ni la nouvelle Xbox. Hein, tout le monde s'arrache, les dernières consoles qui viennent de sortir, elles sont en rupture de stock partout, on ne parle que d'elles. Et elles ont complètement éclipsé la sortie d'une autre console, une Game & Watch. Cette fois, c'est Nintendo. Rien à voir donc avec les deux monstres que j'avais apportés en studio la dernière fois. La Game & Watch est une console portable. Elle tient dans le creux de la main. Philippe, vous l'avez avec vous, si vous pouvez la montrer.
Je la montre.
Ceux qui nous regardent sur Europe1.fr peuvent donc voir une toute petite console. Pour les autres, bien, on va la décrire. C'est un petit rectangle, 10 cm de long sur 5 de haut, des boutons, une croix directionnelle. Et au centre, un écran de 4 cm sur 3 seulement. Bref, excellent. C'est minuscule.
C'est minuscule, mais Vianney a dit, c'est énorme. Je vous la passe, Vianney.
Excellent.
Je vous la passe, vous la rendez après. Est-ce que c'est une nouvelle console? Parce que
c'est
ça
très rétro.
Ça fait pas une nouvelle technologie, ce que vous me montrez là.
Non,
c'est du rétro gaming, c'est
je
quoi?
Je vous confirme. C'est effectivement, c'est un peu du rétro gaming, et en même temps, pas vraiment. En fait, c'est une édition limitée d'une vieille console que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître, et j'en fais partie. La Game & Watch, c'était une pionnière des consoles portables. La première, elle est sortie en 1980. Il y a pile 40 ans, c'est l'ancêtre des Game Boy en fait. Hein. Et je dis la Game & Watch, mais en fait c'est plutôt les Game & Watch. Il y en a eu 59 modèles commercialisés.
Je vous interromps parce qu'on entend Vianney en train de jouer. Mettez-le près du micro, Vianney, qu'on entende le son.
Bien sûr, ils ont gardé la...
Normalement, c'est un son qui devrait faire tourner la mémoire de beaucoup de monde. En fait, chaque console à l'époque, elle contenait un seul jeu, c'est-à-dire que vous achetiez une console pour un jeu. En général, c'était des jeux très simples, hein, très basiques. Ouais. Le tout premier, c'était Ball, un jeu en noir et blanc dans lequel il fallait faire bouger les bras d'un personnage pour qu'il jongle avec 2 ou 3 balles. C'était pas la folie.
Les sons d'époque, maintenant voilà. Ça nous fait rire.
On sent qu'il y avait beaucoup d'efforts qui étaient mis sur le bruitage.
Mais ils étaient à fond, ils ont mis tout ce qu'ils avaient.
Ça c'était le tout premier, et ensuite il y a eu plein d'améliorations. Il y a eu un écran plus grand, l'arrivée de la couleur, 2 écrans même à partir de 82. C'était l'ancêtre, cette fois, de la DS qu'on a connue dans les années 2000. Ouais. Les jeux sont devenus plus complexes, c'est d'ailleurs sur Game & Watch que Mario, un certain Mario a fait ses débuts sous ce nom en 1983 dans Mario Bros. Nintendo a arrêté la production finalement en 1991 quand la Game Boy est tout simplement devenue beaucoup plus populaire.
Mais alors pourquoi en sortir une nouvelle là en 2020?
En fait, c'est pas vraiment une nouvelle console. Hein. C'est une édition juste limitée. Elle célèbre à la fois les 40 ans de la première Game & Watch et les 35 ans de Super Mario Bros. Pour l'occasion, elle est donc dotée d'un écran LCD avec une qualité de l'image qui est top, hein, rien à voir avec les vieux pixels qu'on avait à l'époque. Et ça met en valeur les 3 jeux inclus dans la console. Il y a donc Ball, celui dont je vous parlais, le jeu de jonglage, mais surtout Super Mario Bros. C'était ça le son qu'on entendait dans le micro, ouais, de Vianney. Et Super Mario Bros. 2, les classiques des classiques.
J'adore.
qu'on ne se lasse pas. Hein. Ouais. Moi, j'adore ce son.
Il y a les mecs de Daft Punk qui nous écoutent et qui sont en train d'avoir une attaque tellement ils aiment ce son.
Ça pourrait faire une excellente base pour un remix. Hein. En fait, c'est toujours un plaisir cette musique. Moi, j'adore tout simplement. Il y a une nostalgie et puis rejouer à Super Mario Bros, bah, c'est quand même exceptionnel. Moi, je suis surpris à chaque fois. J'y joue régulièrement. C'est vraiment difficile comme jeu. C'est très addictif. Hein. Dites-vous, moi, j'ai la chance. Chez moi, j'ai une PS5. J'en ai eu une avant tout le monde. Je pourrais y passer mon, j'aurais pu y passer
Attends,
mon samedi.
Vianney, il a envie de vous tuer. Il a levé la tête. Il a fait des yeux d'anaconda.
Non mais c'est clair. J'ai pas voulu me prostituer en écrivant un play pour l'avoir et tout. Mais quand même, vous êtes des chacals.
Et donc moi, j'ai quand même ça. C'est-à-dire que j'aurais pu passer mon samedi justement à profiter de ma chance et jouer une PS5. Bah non, moi j'ai joué à la Game & Watch pendant 2 heures samedi chez moi. Et alors les yeux rivés sur cet écran minuscule d'une console toute petite, toute rétro. Mais voilà, c'est un bonbon hein, pour les gamers. On approche de Noël, c'est une super idée de cadeau cette Game & Watch, c'est pas encombrant, en plus elle coûte 50€, alors vous payez un peu le prix de la nostalgie là-dessus, il n'y a quand même que 2 jeux, mais bon, ça fait quand même quelque chose d'assez sympa à mettre sous le sapin, je le redis, c'est une édition limitée, en plus ça ne sera pas disponible éternellement, c'est ce Noël ou jamais.
50€, merci beaucoup Clément Le Saff. Vianney, réaction. D'abord,
elle est
jouable.
Ouais, elle est géniale, je suis en train de m'éclater.
Non, désolé Philippe, il y a la fin d'émission, je crois.
Ouais.
on va laisser Vianney.
Non, mais c'est vrai, il n'a plus envie. Mais vous jouiez déjà à ces jeux-là? Vous avez commencé quand les jeux vidéo?
En fait, moi j'ai juste une Game Boy quand j'étais petit, avec mes frères, mais on avait une Game Boy pour 4, donc c'était la guerre. Voilà, on tournait, puis c'était à pile, donc bon, bref, c'était la guerre. Voilà.
Et maintenant, vous avez quoi?
J'ai une PS4, voilà, mais j'aimerais bien une PS5.
D'accord. Bientôt, il va y en avoir des nouveaux stocks.
Bientôt.
Ouais, le message est passé. Et 50€, vous allez l'acheter pour Noël, vous allez l'offrir?
Ah, franchement, c'est génial. C'est trop bien, c'est tout léger. Je veux pas faire la pub du truc, hein. Pardon, j'ai aucun intérêt, mais ça fait trop plaisir de jouer à Mario comme ça.
Non, c'était le test.
Voilà.
Vous êtes à combien là? Vous êtes à quel niveau?
Là, je me suis pris 2 game over. Déjà, il faut s'y remettre. Quoi.
On marque une toute petite pause. Game over, vous restez avec nous, Clément et Vianney. À tout de suite.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vondel.
En compagnie de Vianney qui a posé le jeu vidéo pour prendre sa guitare, pour entendre de la musique, ça tombe bien, il est chanteur, il est musicien, n'attendons pas, c'est votre nouvel album. Et c'est assez rare pour te signaler, non seulement il y a les paroles dans le petit livret que je montre ici, mais il y a également les tablatures, c'est-à-dire les accords de guitare de toutes les chansons, et également l'accordage, parce que vous vous accordez la guitare différemment, c'est pas seulement mi, la, ré, sol, si, mi. Pourquoi les tablatures?
C'était une idée de mon père, dès le premier album, de dire, toi qui sais pas lire la musique, mon fils, et que tu aimes avoir des petits dessins pour qu'on t'explique comment jouer les chansons, et bah t'as qu'à faire ça pour les gens qui achèteront l'album. Et du coup, je suis content parce qu'il y a plein de gens qui jouent de la gratte et qui peuvent jouer les chansons avec le livret d'album. Ils n'ont pas besoin d'acheter un livret de partition à côté.
Et c'est une impression, à la gratte, vous avez progressé par rapport au premier album?
Oh bah, je pense.
Mais il y a un morceau, je veux le dire, qui s'appelle Funambule, instrumental à la guitare. Waouh. Alors déjà, il y a l'accordage. Alors, DAC, GGC, c'est-à-dire Ré, La, Do, Sol, Sol, Do.
Exactement.
Déjà, il faut la trouver. Et ensuite, il faut arriver à la jouer. On vous écoute, Funambule, en direct, dans le studio, avec sa petite mini gratte, Vianney.
Merci.
Non, mais impressionné.
Ouais, j'ai les doigts qui ne sont pas encore réveillés. Ce serait mieux quelques heures plus tard, mais j'aime bien la jouer. Elle est sympa à jouer.
Vraiment, ouais, qu'est-ce que ça serait? Bonne remarque de Louise Bernard. Et du coup, c'était un instrumental où vous avez dit, tiens, je vais faire des paroles et vous ne trouviez rien. Et du coup, c'est resté un instrumental.
Non, c'était un instrumental dès le début. Je sais pas, j'avais trouvé ce petit gimmick de gratte là que j'aimais bien. Et comme ça groove beaucoup trop pour faire des paroles dessus, c'est compliqué. Donc j'ai même pas réfléchi à ça.
En 2015, vous aviez refusé de monter sur scène avec les Enfoirés. Cette fois, vous avez dit oui. Pour quelle raison ? Qu'est-ce qui a changé ? C'est eux, c'est vous ?
C'est moi, en vrai. C'est moi, grâce à eux. Parce qu'ils ont, été vraiment géniaux avec moi, à me tendre la main, à comprendre que j'avais besoin d'être à ma place dans un projet comme ça. Et que petit à petit, ils m'ont laissé une jolie place. D'abord en me demandant d'écrire une chanson, et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça, donc je leur ai écrit une chanson. Et puis d'aller voir le spectacle, donc j'ai regardé le spectacle, j'ai adoré. Et puis voilà, petit à petit, me laisser le temps, et là, ils ont été trop adorables, et en effet, je vais essayer de les rejoindre.
Autre actu, vous allez faire partie des jurés de The Voice, l'émission démarquant à l'antenne.
Ça démarre en janvier, je pense.
Mais ça a déjà été tourné, vous avez vraiment pété les fauteuils. Fauteuils. Hélène.
On a tourné les auditions à l'aveugle et. Ouais. J'en ai cassé deux en vrai. Mais j'ai pas fait exprès.
Et ça tourne toujours. Énorme tournée, vous connaissez les dates, j'ai jamais vu un truc pareil. Ça démarre le 16 octobre 2021. C'est les Zénith, Amiens, Clermont, Dijon, Montbéliard, Rennes, Rouen, Lyon, Strasbourg, Metz, Troyes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice, Pau, Limoges, Saint-Etienne. Paris Accor Arena, le 14 décembre prochain, le suivant, Narbonne, Chambéry, Orléans, Le Mans, La Roche-sur-Yon, Caen, Genève, Aix-en-Provence, Montpellier, Nancy, Épernay, Brest, Tours, Grenoble, ça vous fait rigoler.
Non mais ça fait rigoler parce que normalement les gens n'ont pas le courage de balancer toutes les dates. Là Philippe, tu t'es motivé.
Moi ici j'ai tous les courages. Ouais, franchement, je suis prêt à toutes les bassesses. En octobre, je vais être plus sérieux, 30 secondes, vous avez signé avec d'autres une lettre ouverte à la ministre de la Culture. On parle beaucoup du streaming, 15 000 artistes ont signé. Qui demande à ce que les droits musicaux soient mieux répartis. Expliquez-nous l'enjeu, les droits sont mal répartis. Vous ne touchez pas l'argent du streaming ?
Non mais si, moi, tout va bien, mais ce qu'il y a, c'est que je touche de l'argent que je ne devrais pas toucher. C'est plutôt contre ça que je m'insurge. C'est qu'il y a des gens dans ce métier qui ont un nombre d'auditeurs important, mais comme ces auditeurs n'ont pas une écoute compulsive, ça ne génère pas d'argent. En fait, ce qui génère de l'argent, pour comprendre un peu mieux,
c'est quelqu'un qui
c'est
écoute votre titre c'est pas le 200 fois d'affilée.
C'est pas le nombre d'auditeurs, c'est le nombre d'écoutes.
J'ai compris. Auparavant, on touchait de l'argent quand on vendait un disque, mais maintenant, vous touchez de l'argent quand la personne écoute 100 fois la même chanson. Donc
oui,
vous touchez 100 fois plus qu'un
autre. Moi, je trouve que c'est un problème parce qu'on devrait remercier. Parce que du coup, ça remercie simplement les musiques destinées aux jeunes. Donc là, je suis verni, hein, c'est cool. Mais tous ceux qui touchent des publics qui n'ont pas cette écoute compulsive et qui ont pourtant énormément de talent ne sont pas récompensés.
Il est verni, il s'appelle Vianney. Je rappelle, nouvel album, N'attendons pas, c'est chez Tôt ou Tard et une énorme tournée que j'ai racontée. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. On fera un premier bilan de Salto, le Netflix à la française avec le patron Thomas Follin. On va parler d'une nouvelle chaîne éphémère cinéma plus splendide qui repasse les bronzés. On sera avec l'un des directeurs de Canal, Jean-Marc Jurami, et puis la comédienne Eva Darlan. Juste après le flash, Anne Romanoff avec Ça fait du bien. À demain. Merci encore Vianney. Merci pour
avec
la guitare.
Avec grand plaisir. Merci Philippe.
Europe 1, Culture Média.